Bonjour, je m'appelle Guillemette, je suis journaliste à Ombres et Lumières, média spécialisé dans le handicap. Bienvenue dans le podcast La Lumière d'une rencontre, réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, je vous propose de rencontrer quelqu'un de concerné par le handicap ou la maladie, ou qui y est sensible. Le thème de l'épisode est toujours en lien avec le numéro d'Ombres et Lumières en cours. Ce témoin nous partagera son histoire, parfois traversée par l'épreuve, et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Hélène et David Muller, bonjour.
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 Merci de me recevoir chez vous, à Strasbourg, pour nous parler de votre parcours d'adoption, qui vous a permis d'accueillir dans votre famille Sarah, donc, qui vient de Madagascar, qui est porteuse de trisomie, et puis quelques années après, Laetitia, qui elle aussi est porteuse d'une trisomie. Alors, il y a 15 ans, d'abord, comment un peu a germé ce désir, cette idée chez l'un, chez l'autre?
On était jeunes mariés, on s'est mariés en 2007, et puis on avait tout simplement le désir de fonder une famille. Et au moment où on attendait pour fonder cette famille, l'enfant, comme on dit, n'est pas venu, en tout cas tout de suite. Et du coup, très rapidement, on s'est tourné vers l'adoption, très naturellement, je crois, parce qu'on avait déjà... c'était quelque chose déjà qu'on avait pu évoquer.
Oui, c'est quelque chose qu'on... On en avait déjà parlé un peu tous les deux avant même de se marier, on avait évoqué cette idée-là. Et en se disant, pourquoi pas un jour, on adopterait, quand ce sera le troisième ou le quatrième enfant, on se tournera peut-être vers l'adoption. C'est juste que ça ne s'est pas mis dans l'ordre qu'on avait imaginé.
Et peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on nous a proposé, face à des problèmes à dire de santé pour avoir un enfant biologique, on nous a évoqué des méthodes plutôt, par exemple, de fécondation in vitro, d'aide médicale. Et on a senti, en tout cas, tous les deux, quelque chose de très partagé, qui était de dire, on se sentait plus sur le chemin de l'adoption en disant, on était convaincus que ça prendrait du temps, mais qu'au final, ça nous conduirait vers l'accueil d'un enfant. Et on avait un petit peu peur que le côté médical, chaque mois, on soit dans une attente un peu désespérée, parce que c'était déjà compliqué pour nous.
Et est-ce que vous connaissiez dans votre entourage des personnes qui avaient des couples qui avaient adopté ?
Oui, moi j'en connaissais quelques-uns, mais sans que ça m'ait marqué plus que ça. Je sais juste que étant tombé dans la marmite des franciscains petits, il y avait quand même quelques familles autour de nous qui avaient adopté. Mais ça m'avait pas marqué plus que ça. En tout cas, j'ai pas pensé à eux forcément en me lançant dans cette aventure.
On aura peut-être l'occasion de reparler aussi de votre engagement chez les franciscains. Et comment aussi peut-être de l'adoption, le pas de l'adoption d'un enfant avec un handicap, comment cette marche-là a été passée?
Quand on a fait cette démarche, on vivait donc à Madagascar et on faisait une procédure qui était un peu hybride, si je peux me permettre, parce que Madagascar venait de signer le protocole international sur l'adoption,
la convention de l'AE,
et donc ils étaient en train de mettre en place cette convention, cette procédure, mais en attendant, comme c'était pas encore tout à fait prêt, il y avait une procédure un peu hybride et en lien entre l'État malgache et la France, et donc les personnes du consulat qui se sont occupées de ce dossier-là nous ont dit, il faut que vous écriviez une espèce de lettre de motivation de l'adoption, ce qu'on a fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas précisé qu'on cherchait un enfant absolument en bonne santé. Enfin, on n'a pas précisé un enfant en bonne santé. On a juste dit un enfant de 0 à 4 ans à l'époque et sans précision.
Oui, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on nous avait dit que ça serait une procédure compliquée parce qu'on devait se faire reconnaître comme résident. Et en fait, ça faisait pas encore très longtemps qu'on était à Madagascar, un an et demi, 2 ans. Et on nous avait dit, vous verrez, ça va être long et certainement, on va vous dire non. Et alors après, ça reste un peu mystérieux, mais on a lancé une neuvaine. Alors que personnellement, c'était pas des choses dont j'avais l'habitude, mais il y a eu cette neuvaine. Et au bout de 9 jours, contre toute attente, on a eu le consulat qui nous a appelé en disant c'est assez fou. On a déjà la réponse et elle est positive. Par contre, sur votre agrément, c'est précisé pour un enfant en situation de handicap. Et en fait, on a vraiment eu toute la liberté de dire oui ou non, parce qu'elle nous a elle-même dit, c'est pas grave, il y a peut-être eu une erreur de compréhension, faut juste revenir vers les services sociaux pour expliquer que peut-être c'est pas vraiment votre projet. Et en fait, on s'est dit tous les deux, mais peut-être qu'on l'avait jamais verbalisé, mais si ça correspond, enfin, si en fait, à travers, comme a dit David, le fait qu'on n'ait pas souhaité préciser qu'on voulait un enfant en bonne santé, et puis en relisant, on s'est rendu compte qu'on avait, sur cette période-là, échangé avec d'autres couples qui avaient aussi adopté des enfants en situation de handicap, qu'on s'était interrogé de cette problématique. Donc je dirais que ce n'était pas un choix hyper présent initialement. On n'est pas parti dans une démarche de « on va adopter un enfant en situation de handicap ». Donc on a plutôt dit oui quand ça nous a été formulé. Mais en fait, si ça nous a été formulé, c'est parce que je dirais que tout ce qu'on pouvait dire ou notre manière d'être, eh ben, aspirait à ça. Et voilà, et c'est eu un oui en toute liberté. C'est très important de le préciser. C'était vraiment un vrai oui, même si c'était un peu inattendu.
Mais je préciserais quand même que c'était un oui avec un cadre des possibles. C'est-à-dire que bah voilà, on nous a dit, on nous a posé la question, est-ce que vous êtes d'accord d'accueillir un enfant avec un polyhandicap lourd, enfin quelque chose de voilà, enfin ils nous ont exposé plusieurs cas et ils nous ont dit voilà, il faut que vous réfléchissiez à ce à quoi vous êtes prêt ce que vous êtes prêt à accueillir, quel type d'enfant, et donc on a précisé trois limites qui étaient dans un premier temps pas de trop gros troubles de la relation. Parce qu'étant un premier enfant, comme on était dans une attente quand même assez forte, on s'était dit un enfant qui serait très dur dans la relation, ce serait compliqué. Deuxièmement, pas de maladie dégénérative. On n'était pas prêt à accueillir un enfant voilà, qui serait amené à partir plus trop tôt, enfin prématurément. Et pas de handicap physique ou de mobilité trop réduite. Étant vivant dans un pays en voie de développement avec très peu d'accès pour les personnes à mobilité réduite, on s'était dit que c'était quand même pas idéal. Et voilà. Et du coup, on nous a proposé une petite Sarah.
Est-ce que vous, dans ce cas, vous considérez que ça a été un appel, enfin une sorte d'appel, puisque c'était pas au départ un désir formulé de votre part explicitement?
Ben, on témoignait récemment face à des étudiants et on disait c'est marrant parce qu'en fait, tout ce qu'on avait prévu dans notre vie, eh ben, c'est pas réalisé, mais tout ce qui s'est réalisé, et au final, on s'en réjouit, est assez, entre guillemets, merveilleux, très chanceux. Et je dirais que le discernement, ça a été de dire oui, mais que, est-ce qu'on peut appeler ça appel? J'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est présenté, et il y avait un faisceau, en termes de discernement, d'indices qui faisaient que c'était un grand oui, quoi. Et souvent, je dis, en fait, nous, ça va, on n'a pas été très courageux, on a juste était souvent là, au bon endroit, au bon moment, et on nous a fait des propositions souvent inattendues, mais qui finalement correspondaient à notre être, quoi. Je dirais ça comme ça.
Mmh. On reparlera peut-être en effet de cette notion de choix aussi posée. Et, alors, une fois que vous dites, vous posez ce grand oui, combien de temps, au bout de combien de temps arrive Sarah ?
Très, très rapidement, en fait, parce que on habitait à Madagascar et en fait, quand nous ont évoqué la question des enfants porteurs de trisomie, ils avaient déjà notre petite Sarah en tête. Et du coup, je dirais que dans les 3-4 mois plus tard, on a eu la chance de l'accueillir à la maison.
Okay.
En fait, il y a toute la période, ce qu'on appelle l'apparentement, qui se fait d'habitude à distance, parce que souvent, les gens ne sont pas dans... Si c'est un accueil d'un enfant qui vient d'un pays étranger, ça met un certain temps. Nous, on était étant sur place... On a pu aller rencontrer Sarah très vite dans son lieu de vie, dans son orphelinat, foyer. Et dans son foyer d'enfant. Et puis voilà, on l'a rencontrée plein de fois avant qu'elle puisse nous rejoindre. Mmh. Mais voilà, c'était des belles...
Et ses premières, ses premières rencontres
C'est marrant ce que David disait. Une de nos limites, c'était un enfant qui n'est pas trop en difficulté d'attachement et... Voilà, et en fait, quand on accueille Sarah, mais c'est bien parce qu'ils nous font grandir, nos enfants. Et souvent, une fois, on nous a dit, Sarah va vous éduquer, et elle nous a éduqués. En tout cas, elle est allée chercher pile poil chez moi, en tout cas, là où peut-être j'avais quelque chose à travailler. En fait, moi, j'étais en grande, grande attente d'être reconnue comme maman. Et Sarah, qui finalement avait déjà 2 ans et demi de parcours de vie dans un lieu de vie très bienveillant, bah, elle n'était pas forcément tout de suite à vouloir comment dire, manifester une superbe affection par rapport à moi, en fait. Et du coup, il y a eu toute une période où c'était vraiment là, s'apprivoiser. Voilà, des moments où, je ne sais pas, elle était très coquine, en fait, où je voulais lui prendre la main, elle s'essuyait discrètement la main sur son t-shirt. on en rigole aujourd'hui, où on demandait à Sarah de courir vers papa et après vers maman, ce fameux jeu. Et du coup, elle allait chez David, mais
elle
ne voulait plus revenir chez moi et elle pleurait pour ne pas aller chez moi. Donc maintenant, ça me fait beaucoup rire, mais à l'époque, j'avais peut-être 23 ans, 24 ans.
Non, il y a eu
C'était difficile. Et il y a eu cette nuit où on a discuté tous les deux.
Juste une petite anecdote, c'est dans un supermarché. Donc Sarah se retrouve dans un supermarché, c'était une des premières fois de sa vie certainement qu'elle mettait les pieds dans ce genre d'endroit. À Madagascar, hein. Et donc Hélène la pose par terre, Sarah marche, et puis à un moment elle va vers un homme malgache, donc elle est malgache, donc elle est black.
Dans ses bras, hein.
Elle court dans les bras d'un inconnu, et Hélène vient la reprendre, et elle se met à hurler, et donc les gens voient une petite fille malgache dans les bras d'un homme malgache qui était arrachée des bras du mec par une blanche. Enfin, c'était assez cocasse comme situation. Et Sarah. Avait ces moments où, enfin, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais elle jouait quelque chose qui n'était pas forcément simple. Et donc, on a décidé un soir,
pour préciser, on nous avait dit, on a fait appel à un psychologue qui nous avait dit, en fait, on n'a pas de boule de cristal, soit c'est simplement aller dans une sorte de conflit de loyauté et ça va se dénouer avec le temps. Soit il y a des problématiques d'attachement plus profond et ça peut être dans la durée. Et du coup, nous avec David, on s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt à accueillir Sarah si c'est vraiment des troubles de l'attachement? Ça résonnait fortement en moi pour diverses raisons. Et on a discuté
jusqu'au matin.
Ouais, jusqu'au matin en se disant, finalement, le oui, il n'est peut-être pas là où on l'attendait. Et on s'est dit, c'est notre fille, on fera ce qu'il faut pour. Et en fait, dès le lendemain, Sarah, elle avait un autre comportement. Alors, ça n'a pas été un coup de baguette magique. Mais suite à cette discussion, alors qu'elle dormait, hein, c'est sûr, dès le lendemain, il y a eu... c'était un autre chemin. Et là, pour moi, ça a été plutôt un chemin de joie. Parce qu'en fait, chaque jour, j'avais l'impression qu'elle m'aimait de plus en plus et que je l'aimais de plus en plus. Et donc, pendant 6 mois, 1 an... je me disais, mais c'est fou, je l'aime plus qu'hier et on s'aime plus qu'hier. Et en y repensant, je pense que j'étais très en attente d'être reconnue comme maman, alors qu'en fait, en discutant avec David, il m'a aidée, on s'est aidés mutuellement à se dire, mais on se met à son niveau et on évolue avec elle. Et en fait, c'est peut-être pas la priorité, le côté affectif ou le côté qu'elle me dise maman. Et ça s'est venu après et c'est très présent aujourd'hui, hein, elle est hyper affectueuse et... Et tous les jours, elle nous dit, encore hier soir, elle me dit « Je suis contente que tu sois là, je suis heureuse que tu sois là. » Voilà, il n'y a plus de problème, mais voilà, les débuts.
Et peut-être pour préciser, cette nuit où on a discuté jusqu'au petit matin, c'était à la fin d'une période qu'on appelle la période de probation, c'est ça ou non, je ne sais plus exactement le terme, enfin, dans l'adoption, en tout cas dans la procédure qu'on vivait, on avait un temps de réflexion qui arrivait à son terme. Et alors, on se disait pas, on va la laisser, c'était pas ça, mais c'était quand même, on arrivait quand même à une deadline qui nous a fait réfléchir. Et c'est arrivé à cette deadline qu'on a posé ce choix et qu'on a vu un changement chez Sarah.
Vous avez créé du lien petit à petit avec elle. Et on imagine que c'est pas du jour au lendemain que ça se crée. Peut-être une question sur votre entourage, vos proches, sur quand vous leur avez annoncé ce choix, ce saut dans l'aventure. Voilà, quelles ont été peut-être un peu les réactions chez l'un et chez l'autre ? David, peut-être.
Alors moi, j'ai la chance, pour ma part, que ma famille a été très accueillante. Et j'ai grandi dans une famille qui est très ouverte, qui est beaucoup dans l'accueil, qui a souvent du passage à la maison, etc. Et comme dit, on avait des personnes dans notre entourage qui avaient aussi adopté déjà, donc c'était quelque chose qu'ils trouvaient très beau. Et puis, mes parents étant aussi dans une démarche de foi franciscaine, etc., ça allait un peu dans le bon sens, on va dire, que ça correspondait à quelque chose de beau et quelque chose de très reconnu et accepté. Donc, ça s'est très bien passé.
Pour ma part, je dirais que ça m'a fait grandir. En fait, le truc, c'est que moi, je suis arrivée toute joyeuse en disant « ça y est, on a Sarah, on a adopté une petite fille de 2 ans et demi, porteuse de trisomie ». Et forcément, tout le chemin que nous, on avait fait avec David de discernement, mon entourage, moi, l'avait pas fait. Et donc, sur le coup, forcément, ça a été un petit choc parce qu'en fait, par choix, on les avait pas intégrés forcément dans le discernement. On n'était pas allé leur demander leur avis ou on n'avait pas partagé ça. Et donc, voilà, moi, je suis venue avec tout le chemin parcouru et avec un gros joie. Et sur le coup, ça a été plutôt la peur. Mais je dirais une peur aussi parce que d'amour, en fait. Ils avaient très peur que peut-être on ait dit oui par défaut en disant on veut à tout prix un enfant et finalement on est prêt à dire oui, même si ça ne nous correspond pas. Et puis ils avaient peut-être une méconnaissance aussi de la trisomie. Et donc je dirais qu'au début, forcément, on n'était pas sûr. Il y avait de l'interculturalité, enfin, on ne parlait pas la même langue. Et progressivement, le chemin s'est fait. On a pu, avec David, expliquer tout ce que nous, on a pu réfléchir. Et je pense qu'ils nous ont vus joyeux et je crois qu'aussi quand ils ont vu Sarah, je dirais que progressivement, notre Sarah, elle a changé des cœurs, quoi. Voilà.
Elle nous a éduqués aussi.
Oui, quand la rencontre a vraiment lieu, c'est les fantasmes, les idées qu'on a peut-être tombent
après, un peu. Après, je pense que c'est progressivement aussi. Oui. On habitait à Madagascar, donc on se voyait aussi qu'une fois par an. Donc ça, c'est pas non plus simple, mais oui, voilà, c'était... Je dirais un choc, mais qui, pareil, a été progressivement vers quelque chose de l'ordre de l'acceptation et de la découverte aussi de la joie de ces enfants-là.
Et on continue, parce que votre vie, vous disiez que vous l'aviez imaginée comme d'une certaine façon et que finalement tout s'est un peu chamboulé. Et en effet, Hélène, je ne sais plus en quelle année exactement, mais vous découvrez que vous êtes enceinte. Et donc, Johanna vient agrandir votre foyer. Elle a 7 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
6 ans et demi.
6 ans et demi, pardon, je l'agrandis. Et donc, Sarah devient grande sœur. Et donc, voilà, je me demandais un peu cette double casquette d'être à la fois parent adoptif et parent biologique. Est-ce que c'est un peu difficile d'appréhender
Alors, juste pour une petite anecdote, c'est Sarah qui a découvert, en fait, que j'étais enceinte. Donc, je dirais que c'est Sarah qui nous a révélé que j'étais enceinte. Puisqu'on était dans un projet d'adoption, forcément, on voulait agrandir la famille. Et elle a posé la main sur mon ventre en disant « il y a un bébé dedans » ou « il y a un bébé ». Je ne sais plus comment elle a formulé. Du coup, moi, je lui expliquais pédagogiquement que maman était maman par le cœur. Et je pensais qu'elle disait ça parce qu'elle voyait qu'on était dans une démarche d'adoption, mais c'est elle qui avait raison, c'est après coup que du coup ça m'a un petit peu traversé l'esprit. Et voilà, en effet, on attendait Johanna.
Quand elle nous l'a annoncé, Hélène était déjà enceinte depuis à peu près un mois. Et on ne s'y attendait vraiment pas, parce que ça faisait 9 ans qu'on s'entraînait. Et, et voilà, c'était une belle découverte.
Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait eu... les deux casquettes de parents adoptifs et biologiques, je dirais que on n'a jamais trop eu de réflexion, de difficultés là-dessus. Pour nous, c'est naturel, en fait.
Par rapport à Sarah, on lui a toujours bien expliqué les choses, c'est-à-dire qu'on n'a jamais caché quoi que ce soit. De toute façon, elle le voit à la couleur de notre peau et elle revient souvent dessus. Mais dès qu'elle voit quelqu'un black, elle dit « Ah, il est black comme moi !» Donc voilà, elle se fait pas d'illusions. Et on n'a jamais caché. C'est peut-être aussi l'avancée de l'adoption au sens global qui a fait qu'aujourd'hui, on est moins dans cacher, faire un secret. On est plus dans vraiment dire les choses. Et en fait, Sarah n'a jamais eu de souci avec ça. Johanna est arrivée naturellement, Sarah l'a très bien acceptée et Johanna accepte très bien que Sarah soit là avant elle et qu'elle vienne de Madagascar, ça pose vraiment aucun souci.
On vous propose d'adopter donc une autre petite fille donc à besoins spécifiques, puisque donc vous continuez votre démarche d'adoption, vous la poursuivez même après l'arrivée de Johanna. Et sauf que cette donc, petite fille qui vous était donc, destinée, qui s'appelle Grace, donc, décède juste quelques temps avant. Peut-être, voilà, racontez-nous aussi cette tranche, cette étape-là.
Bah, c'était, on a commencé une démarche d'adoption au Congo, Congo-Brazzaville. Et là aussi, il y avait quelque chose d'assez fou, puisque Johanna, donc, qui avait peut-être 2-3 ans à l'époque, a très réagi, enfin, c'est très vite, on va dire, comment dire, pris d'amour pour cette petite Grace. Pour donner un exemple, on n'était même pas allé au Congo, on avait des photos là-bas du foyer de vie où vivait Grace. Et je crois que j'ai dû lui dire une fois, Johanna, tu vois, c'est Grace. Et pendant des jours, Johanna disait Grace, 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 et était très accrochée. Donc toute notre famille, on a cheminé vers Grace dans une période pas simple, puisque on a eu beaucoup de difficultés administratives. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a commencé cette procédure quand le Congo a aussi signé la convention de La Haye, donc comme Madagascar en son temps. Donc voilà. Et du coup, ça a un petit peu complexifié la procédure d'adoption. Et en fait, au moment où vraiment on a pu avoir le premier jugement d'adoption, il y a eu le confinement de 2020. Donc on a patienté pendant tout le confinement. C'était la période aussi du carême, et on le vivait vraiment en se disant, voilà, au bout, il y aura Grace. Je précise qu'on l'avait rencontrée l'été d'avant, l'été 2019, tous en famille. Donc on avait vécu avec elle le mois d'août au Congo. Et après, il y avait cette procédure qui s'est un petit peu éternisée. Donc, il y a eu le confinement, et fin du confinement, juin 2020. Et là, on a le vendredi, le jugement d'adoption, premier jugement d'adoption de Grace. Et elle est décédée le dimanche, en fait, donc 2 jours après. Voilà, donc ça a été très...
Pas simple.
Très, très dur, ouais, pour nos enfants aussi, parce qu'on l'avait vue, elle était attendue pour septembre à l'école. Voilà, ça reste notre fille.
Oui, c'est pleinement notre petite étoile. Elle me regarde là-bas sur la photo. C'est notre petite étoile qui veille sur nous. Enfin, je pense tout le temps à elle quand je vais à la messe et que j'entends des phrases du genre rendez grâce. Oui, j'ai rendu grâce, ça y est, c'est fait. mais en fait, c'est un peu notre petite étoile au ciel. Et dès qu'il y a un événement familial qui concerne qui que ce soit de notre famille ou nous tous ensemble, sur quelque chose un peu compliqué, ben je veux dire, grâce, tu t'en charges là, tu gères. parce que voilà, et pour moi, c'est vraiment notre petit ange qui veille sur nous.
On a eu la chance, en fait, d'être accompagnés. Enfin, il y a eu plusieurs... ça reste une épreuve, quelque chose de très douloureux, mais on a eu quand même là aussi beaucoup de chemins, finalement, qui nous ont permis... d'y mettre du sens. On a été accompagnés par des prêtres qui sont formés en fait aussi au traumatisme, au deuil. Et déjà, ils nous ont aidés, alors moi particulièrement, à sortir du chemin qui conduit pas vers le bien, qui est de dire si j'avais m'étais renseignée sur le meilleur hôpital de Pointe-Noire, si j'avais appelé à tel moment, si j'avais ça, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, de pas aller du tout sur ce chemin-là. Et à l'inverse, de relire ce que ça peut être comme porteur de sens. Et notamment, alors, me concernant, j'étais beaucoup sur la procédure un petit peu judiciaire. Et du coup, forcément, quand Grace est décédée, bah, je m'en suis voulu à l'époque de me dire peut-être que je n'ai pas assez regardé le côté santé, peut-être que je n'étais pas assez derrière pour voir. Et en fait, ils nous ont amenés à regarder qu'il y avait de notre part, du coup, notamment sur le côté de l'éducation de Grace et de la santé de Grace, une confiance qu'on faisait très fortement au personnel, aux éducateurs là-bas, au Congo. Et qu'en fait, d'un côté, c'est le fait qu'on ait confiance en eux qui a permis aussi, ce transfert d'amour. Et ce qu'on a pu aussi s'apercevoir, c'est qu'au moment des obsèques de Grace, en fait, chaque personne qui a connu Grace a pu dire un mot de ce que Grace leur a apporté dans la vie. Et il y en a beaucoup qui ont pu dire que depuis que nous étions allés au Congo et qu'on avait passé du temps avec elle, elle n'avait cessé d'évoluer. Alors, on n'est pas magique, hein, on n'a pas une baguette magique, mais la manière dont on a pu le relire, c'est de se dire, on est allé là-bas, on a porté un regard de confiance, d'espérance sur Grace. Et finalement, même si après on est revenu, il s'est écoulé un an, bah, pendant cette année, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, une transmission d'amour. Et puis... Et puis cet enfant, le regard qui a été porté sur cet enfant était différent. C'était, ils ont dit l'enfant qui était déposé devant la porte de l'orphelinat en pleine nuit et porteuse d'un handicap était devenu l'enfant de David et Hélène dans la famille Muller. Et voilà, quoi. Donc ça, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup aidés. Et puis les filles aussi nous ont quand même... Johanna était très en rébellion. Elle a été très... Mais c'est très beau aussi, hein, très... Refuser de se faire bénir à la messe, dire... même presque on en rigole aujourd'hui, mais des conflits où il y a Sarah qui dit « Mais grâce, elle est partout, elle est là, elle est autour de toi. » Et Johanna s'énervant en disant « Mais tu la vois là, tu la vois ?» Non, alors arrête de dire n'importe quoi. Et ça a donné lieu à des scènes un peu oui. complexes.
Je pense que Johanna a été la plus impactée parce qu'elle était la plus petite et la moins armée affectivement et psychologiquement parlant pour affronter cette épreuve. Et à tel point qu'aujourd'hui encore, elle a parfois des phrases comme ça et qui passent vraiment comme un coup de vent, hein, mais qui dit de toute façon, par exemple, Hélène est enceinte en ce moment... De toute façon, c'est un bébé qui va être mort ou elle va sortir des petites phrases comme ça qui marquent un traumatisme. Même si aujourd'hui, elle va très bien, hein, notre petite Johanna, mais voilà, elle a été marquée par cette histoire.
Et Sarah, elle, je pense, elle lui a fait beaucoup miroir parce qu'elle disait souvent « Grâce est noire comme moi, elle est d'Afrique comme moi ». Donc voilà, il y avait aussi des craintes, mais elle nous a aussi beaucoup réveillées. Par exemple, une fois, elle m'a vue pleurer et elle m'a dit « Moi, je suis trisomique, j'accepte. Donc, toi, t'acceptes. C'est triste, mais faut y aller. » Elle avait des... Alors, ça reste Sarah, hein, en parlant. Avant, elle parlait peut-être de la viande qu'elle a mangée le midi et puis du film qu'elle allait voir après. Donc, au milieu de plein de conversations qui, des fois, sont décousues, elle avait comme ça des paroles, mais...
De sagesse.
Ouais, de sagesse, quoi. Et Johanna dit aussi une fois, à chaque fois qu'il y a des nuages un peu bizarres, elle dit « Ah, Grâce, elle avait vraiment des petits doigts tout rondouillés. C'est Grâce qui joue pour nous faire rire. Elle joue avec les nuages. Donc voilà, chez les deux, il y a quand même eu des on y a mis du sens, même si c'est jamais simple.
On a une boîte où elles ont mis pendant longtemps. Maintenant, moins maintenant, mais c'est bien. Ça veut dire que le deuil est fait quelque part. Mais on a une petite boîte où on met des dessins, des choses dès qu'on pense à elles, dès qu'on a un truc qui nous fait penser à elles. Ben on met dans cette petite boîte et c'est vrai que voilà, c'est ouais. on a encore une fois, on n'a pas caché les choses, on a vraiment vécu ça en famille avec beaucoup d'affection aussi. Ça nous a beaucoup soudés à ce moment-là aussi. Et bon,
et donc, on les laisse libres.
Ça fait partie de la vie.
Et on les laisse libres. Il y a des fois où moi je dis, c'est notre quatrième enfant. Hier, la dernière fois, la sage-femme, et puis c'est. En présence de Johanna, j'ai dit ça, c'est notre quatrième enfant et on a une petite étoile au ciel. Et Johanna a dit oui, dans la famille, ça sera la cinquième fille. Donc il y a des moments où elle va vraiment, Sarah et Johanna vont avoir besoin de rappeler que Grâce est leur sœur. Et puis d'autres moments, pas du tout. Et ça aussi, on laisse totalement faire. Et il y a des fois, Johanna va dire qu'elle a trois sœurs. D'autres fois, elle va dire j'en ai deux et puis une petite étoile au ciel. Des fois, elle va pas du tout parler de Grâce. Donc ça, on les laisse très libres parce que voilà, elles ont chacune leur chemin et nous aussi.
Mmh. Donc oui, elle est vraiment, c'est votre ambassadrice c'est au ciel, représentant Muller tout là-haut. Et elle est efficace cette ambassadrice puisque à peine quelques mois plus tard, si je ne me trompe pas, c'est le département du Nord qui vous contacte pour vous proposer une autre petite fille. À adopter.
Alors, c'est mieux que ça, puisque c'est pas quelques mois après. C'est quelques mois après qu'on accueille Laetitia. Mais c'est quelques jours après le décès que Hélène, contre toute attente, puisque d'habitude elle n'est pas du tout à l'aise au téléphone et qu'elle me passe le message à faire passer, elle décide elle-même de prendre le téléphone, appelle notre ancienne référente de l'adoption du département où on vivait avant, à Nancy, pour lui annoncer, parce que c'est une personne qui était au courant de notre projet. Et on voulait la mettre au courant de ce qui s'était passé. Et donc, cette personne, tu le diras mieux que moi, puisque c'est toi qui l'as eu.
Non, mais elle est à la fois dans l'accueil de ce qu'on vit. Hein. Elle dit, c'est dur, j'accueille ce que vous me dites. Et elle était marquée, elle aussi. Mais elle a continué en disant, je ne sais pas trop pourquoi je vous dis ça, parce que c'est peut-être pas le moment. Alors, limite, elle s'excusait presque de nous en parler. Mais elle nous dit, bah voilà, il y a 10 jours de ça, j'ai reçu le dossier d'une petite fille, non, elle ne précise pas, d'un petit bébé porteur de trisomie 21 en attente d'adoption. Voilà, j'ai pensé à vous, mais je savais que vous étiez déjà parent de grâce. Et vraiment, elle dit, bah, c'est peut-être pas le moment, je vous parle de ça, c'est peut-être pas le moment, mais je ne sais pas, j'ai besoin de vous en parler. Et voilà, et elle nous encourage, c'est ça, d'écrire un mail très honnête au département du Nord, et c'est ce qu'on a fait en cachant rien de ce qu'on vivait. Donc voilà, on a mis un peu les choses sur la table et on a écrit cette lettre au département du Nord.
C'est particulier parce que en même temps, le département où on vit actuellement on avait rencontré une psychologue. Ce qui est notable, c'est quand même qu'on a débuté cette deuxième adoption, enfin cette deuxième procédure, après avoir accueilli Sarah en 2011. Donc Sarah, on l'accueille en avril 2011. En octobre 2011, on décide de lancer une nouvelle procédure parce qu'on sait que c'est long et que ça peut prendre du temps, etc. Et il se passe tout ça entre-temps, c'est-à-dire Johanna qui arrive, plusieurs projets d'adoption, dont celui de Grâce, qui aboutit, mais qui se finit très vite. Et finalement, cette procédure, elle commence avec Laetitia qui nous rejoint, trois mois après le départ au ciel de Grâce, et qui nous rejoint à la maison le jour de notre anniversaire de mariage.
Oui. Et ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est que le département du Nord, je dirais qu'ils nous ont, pour le coup, eu la certitude. Enfin, ils nous ont fait confiance sur le fait qu'on pouvait vivre d'un côté la joie et d'un côté la tristesse. C'est-à-dire qu'ils nous ont posé des questions. Parfois, on ne sait pas trop quoi répondre. Bah, qui est Grâce pour vous? Comment? Donc, ils nous ont amenés à mettre en mots tout ce qu'on avait vécu, et en fait on a vraiment senti cette confiance que voilà, on pouvait à la fois c'est pas simple d'avoir Grâce qu'au ciel, mais en même temps ça nous empêche pas de rester ouverts et de vivre la joie avec Laetitia, et voilà, et avec Laetitia, bah voilà, on l'a appelée Laetitia parce que
la joie,
elle est joie. Et alors son but dans la vie, c'est pas d'être notre résilience, c'est pas ça, mais quand même de l'avoir à la maison, elle nous a transporter encore plus vers la vie, vers la joie, et voilà.
Et elle porte bien son nom.
Oui.
J'ai pu la voir quelques minutes tout à l'heure, je confirme. Et donc, elle arrive quand exactement chez vous, Laetitia ?
29 septembre 2020.
D'accord.
Donc, elle est née en plein confinement, c'est anecdotique aussi, enfin, ça a du sens pour nous. Elle est née le même jour que ma sœur, ma petite sœur, qui est devenue sa marraine.
Ah oui, d'accord. Le
26 mars.
Et en effet, là, vous, Hélène, vous êtes à nouveau enceinte.
Oui. Voilà, donc... Alors, j'irai contre toute attente, non, parce que du coup, on espérait un petit peu. Mais oui, voilà, c'est, c'est une belle joie aussi. Et voilà, okay. Et encore une petite fille, on est très contents. Et David garde sa primauté de seul homme de la famille.
Peut-être par rapport à Laetitia, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un témoignage à la communauté de Tibériade en Belgique, en même temps que Martin Stephens, qui est un ami et qui est appelé le philosophe de la joie. Et en fait, c'est son parrain à Laetitia. Et je n'avais jamais fait ce lien entre le philosophe de la joie et Laetitia qui veut dire joie. Enfin, je trouve ça très joli aussi.
Et donc, parrain et marraine de choc. Et peut-être revenir sur la notion de choix que vous évoquiez un peu au début. En effet, voilà, c'est différent de parents qui apprennent au cours de la grossesse ou à la naissance que leur enfant est porteur d'un handicap. En quoi, pour vous, le voyez de manière... en quoi c'est différent, en fait, au fond?
J'aurais peut-être du mal à dire en quoi c'est différent, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai une grande estime et respect à la fois pour les mamans de naissance qui ont fait le choix de confier leur enfant à l'adoption, et aussi pour tous ces parents qui n'ont pas été préparés au handicap et qui le découvrent, ça leur tombe comme ça, un peu comme un invité surprise. Donc je dirais oui, la différence, c'est que nous, on a pu se préparer, et que c'est quelque chose qu'on a choisi en liberté, et que tous ces, dans la plupart des cas, quand le handicap arrive, c'est vraiment non préparé, et du coup, ça demande des capacités d'adaptation pour les parents très fortes. Donc, C'est peut-être ça. L'idée, c'est de se dire, mais voilà, mais finalement, on était consentants, entre guillemets, on a dit oui dès le départ. Et parfois, c'est pas toujours simple. Alors, voilà, je trouve que j'ai beaucoup d'estime pour tous ces parents qui l'ont pas choisi au départ et qui arrivent à composer avec ça dans leur vie.
Et en même temps, ça, c'est un choix posé à un moment, mais il y a quand même plein de choses voilà, dont vous ne saviez pas forcément toute l'histoire, par exemple, l'histoire de Sarah, Laetitia. C'est un choix et en même temps qui ouvre aussi à plein d'inconnus.
Ah oui, non, c'est sûr que... On n'est pas plus... Pour le coup, on est tout autant novice que tous ces parents-là. Et c'est vrai que, par exemple, je vais à Cœur de Maman, on est pas mal avec Foi à Lumière, etc. Et c'est vrai que c'est des...
Peut-être expliquer ce que c'est Cœur de Maman, c'est un groupe de paroles...
Oui, alors je ne connais pas en détail et je n'ai peut-être pas les bonnes explications, mais en tout cas, Cœur de Maman, on est plusieurs mamans qui vivons avec un enfant, un proche en situation de handicap. Et puis, l'idée, c'est de se rencontrer une fois par mois, d'échanger, de s'enrichir mutuellement. Et on est beaucoup aussi avec Foi et Lumière, où là, c'est vraiment le vivre ensemble avec à la fois des familles... qui sont concernés par le handicap, des personnes en situation de handicap, et puis ce qu'on appelle des amis, qui ne sont pas du tout forcément concernés par le handicap, mais qui se rendent compte à quel point c'est riche de vivre auprès de ces personnes-là. Et donc on forme une communauté, et
c'est très vivant. Ouais. C'est très vivant, c'est très chouette, c'est très dynamique. On a vécu un moment fort au mois d'octobre, puisqu'il y a eu les 50 ans de Foi et Lumière. Et ça a eu lieu, c'est une cérémonie qui a eu lieu à Lourdes pendant plusieurs jours. Et on était 3 ou 4 000 personnes mixtes, dans le sens autant de personnes avec handicap que de personnes sans handicap visible en tout cas. Et en fait, moi en partant là-bas, je savais que ça allait être chouette, mais je me suis dit que ça allait être quand même un peu peut-être lourd parce qu'il y a plein de personnes en fauteuil, que ça va être logistiquement un peu compliqué, et que voilà, mais ça va être chouette. Et en fait, j'ai vécu un moment extraordinaire, mais fou de dynamisme, d'humanité, de joie, et c'était extraordinaire. Pour avoir vécu des JMJ et d'autres mouvements de rassemblement de jeunes, qui étaient très chouettes aussi, mais là, c'était carrément high level, quoi. C'était qualité extraordinaire d'humanité et de beauté, enfin vraiment très 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 chouette.
En fait, être parent d'enfants en situation de handicap ne nous empêche pas d'avoir des préjugés, et me concernant, en fait j'en avais. Par exemple, pour être honnête, avec au niveau de Foi et Lumière, au début je me disais, on va pas aller s'engager à Foi et Lumière. À l'époque on habitait Nancy, on nous avait parlé de Foi et Lumière, et je m'étais dit, Johanna elle a déjà le handicap à la maison, on va pas... Je caricature, on ne va pas la traîner dans des lieux où elle va encore boire et manger handicap. On va un peu la protéger. Et en fait, sur Strasbourg, on est arrivé sur Strasbourg. Et puis, il y a une famille qui a un enfant porteur de trisomie de l'âge de Sarah qui nous a dit, on fait un barbecue, vous voulez venir? Oui, moi, je veux bien venir au barbecue. Et c'était une rencontre Foi et Lumière. Et il y avait une joie immense. Et surtout, notre Johanna, elle était comme un poisson dans l'eau. Et quand j'ai vu à quel point elle-même était... épanouie, heureuse, et que ça me faisait du bien, en fait. Du coup, on s'est engagé à Foi et Lumière. Et sur les autres types de handicap, en fait, moi, au début, c'était pas inné. Plein d'autres différences avec lesquelles j'étais pas forcément hyper à l'aise. Parce que Sarah et Laetitia, c'est Sarah et Laetitia. C'est pas des trisomiques, c'est mes filles, en fait. Et du coup, j'ai dû aussi avancer. Je me suis rendu compte que des fois, j'avais des préjugés aussi. Et aujourd'hui, c'est toujours une joie. Je suis censée ne pas trop me déplacer parce que j'ai une grossesse un peu complexe. Mais j'ai fait une exception récemment pour une rencontre de Foi et Lumière. Et c'était merveilleux parce que j'étais sur un canapé. Il y avait deux personnes à droite, une personne à gauche sur un petit canapé tout serré. Et c'était la main sur le ventre. Oh là là, on est très contents. On est tellement contents pour toi. Est-ce que je pourrais lui donner le biberon? Et puis j'ai des messages... Enfin, c'est fou, je suis ressortie là en me disant, mais c'est fou ce langage d'amour, quoi. Et c'est vrai que ce que des fois me révolte un peu dans le monde, c'est qu'on considère l'inclusion, l'accueil des personnes avec handicap comme presque, faut le faire, c'est bien pour eux, c'est important. Voire parfois, je suis un peu dure, mais dans le monde chrétien, comme quelque chose qui serait de l'ordre de la charité, Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Enfin, je veux dire, on vit mal dans notre société le manque d'amour, le manque d'affection. On se rend compte que les gens mettent plus de sens aux choses, qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et pour moi, je dis pas que c'est la solution, mais on a une piste, c'est ces personnes différentes qui nous apportent plein de choses. Et parfois, on s'en prive. Et c'est fou. Et nous, on le voit bien. Sarah, elle est en quatrième ordinaire, dans une classe ordinaire. Et ben, elle apporte aux autres. Enfin, je veux dire, ça lui fait du bien d'être en milieu ordinaire, mais pas moins que ça fait du bien aux autres de la présence de Sarah. Et ça, je trouve qu'on l'oublie beaucoup trop, quoi.
Qu'il faut entendre.
Ouais. Peut-être que, à la différence de parents qui sont dans l'accueil d'un enfant naturel et qui seraient à porteur d'un handicap, nous, comme c'est un choix personnel, on est arrivé plus rapidement à se rendre compte, peut-être que de ce côté prophétique de ces personnes-là et de ce qu'ils apportent dans la société. En ayant fait ce choix-là, on n'a pas dû faire le deuil d'un enfant parfait, et du coup, plus rapidement, peut-être, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont quelque chose à apporter à notre société, dans tout ce qui est humanité, dans ce qui est accueil de l'autre, ouverture. La personne qui nous a dit, elle va vous éduquer, Sarah, mais en effet, elle nous éduque clairement, et c'est des personnes qui éduquent le monde. On ne peut pas se passer de ces personnes-là, elles font du bien.
Parce qu'ils n'enlèvent pas les difficultés, hein. On n'est pas en train de dire que le handicap, c'est tout rose, c'est tout beau. Bien sûr, hein, c'est beaucoup plus la vie est beaucoup plus nuancée, mais leur présence au cœur du monde, elle est à l'image de Dieu.
Et à côté de votre rôle de parent, vous vivez aussi une mission professionnelle au service des prisonniers. Alors vous avez créé une association qui s'appelle Grandir Dignement. Alors on sent bien que vous êtes sensible au fait de prendre soin de ceux qui sont exclus, qui sont plus fragiles. Cet engagement, est-ce qu'il vous a aiguillé vers l'adoption? Est-ce que vous faites un lien entre tout ça?
En fait, je pense que les liens, on les a fait après. Enfin, oui. Encore une fois, on n'est peut-être pas des rois du discernement, parce que c'est après coup maintenant. En fait, oui, on est les cofondateurs, mais on a été rejoints par des gens très bien, très rapidement, mais de Grandir Dignement, qui est une association qui agit pour la protection et l'insertion des enfants en conflit avec la loi. Donc concrètement, c'est à Madagascar, au Niger, en France, des enfants qui sont soit en détention, et après, on travaille aussi sur tout ce qui est les mesures alternatives et l'insertion. Et au début, ça s'est fait très parallèle, puisque quand on a eu Sarah en 2011, Grandir Dignement est né en 2010, dans ces années-là. Donc, les deux chemins étaient parallèles. Et c'est seulement maintenant qu'on arrive peut-être à se dire il y a quelque chose de commun. En effet, en se disant, en fait, en tant que chrétien, souvent on dit l'homme est fait à l'image de Dieu. Et pour nous, ce serait de se dire derrière ce jeune, des fois, qu'il soit... dont les droits ne sont pas foués en détention, ou de ce jeune hyper violent, ou de cet individu que la société a qualifié d'incasable, il y a quelque chose de Dieu, il y a quelque chose d'une dignité inaliénable, et il y a une richesse énorme à l'intérieur, et charge à nous, humains et citoyens, d'aider à ce que ce côté positif puisse rejaillir. Et je dirais que le handicap, c'est un peu la même chose, c'est qu'au prime abord, on pourrait se dire c'est du moins, alors qu'il y a quelque chose à chercher d'un peu plus secret. Et après, personnellement, je suis quelqu'un de très, un peu, pas hyperactive, mais j'ai tendance à être très à fond dans tout ce que je fais. Et je dirais que ça m'a permis l'équilibre. Je dirais que s'il n'y avait pas eu Grandir Dignement, j'aurais été en effet peut-être beaucoup trop, je le suis déjà beaucoup, hein, mais sur le dos des pauvres Sarah, même Johanna et Laetitia. Donc le fait d'avoir Grandir Dignement, ça équilibre. Et inversement, je pense que Grandir Dignement, ils sont bien contents des fois que je sois absente et que je ne sois pas là pour m'occuper des enfants. Non, je rigole, mais...
Du grand Hélène. Non, moi, je dirais que dans certaines interactions qu'on a, qui sont assez rares, mais qui arrivent quand même, en fait, Sarah révèle la beauté de ces jeunes qu'on accompagne et qui sont parfois très durs et qui, de prime abord, peuvent nous paraître... j'allais dire repoussant, c'est pas le terme, mais dur, quoi, qu'on a du mal à approcher parce qu'ils sont des hérissons avec plein d'épines et qui nous font un peu peur parfois. Et Sarah, elle va passer au-dessus de ça, elle va aller discuter avec eux tout naturellement et eux vont répondre tout naturellement et vont être dans un sentiment de protection et d'amour mutuel, en fait, qui vient naturellement. Et ça, c'est très très beau, et c'est dans les deux sens.
C'est vrai que Laetitia est plus petite, donc on a moins à raconter en termes d'anecdotes, mais par exemple, Sarah, quand on était à Madagascar, on est déjà arrivé en prison, en détention avec elle, et donc la cour était sale, et Sarah était à une période que traversait Tissia d'ailleurs, où elle mettait tout en bouche. Donc, j'avais du mal avec David, et en fait, ce que faisaient les jeunes, c'est qu'ils ont pris un balai, et là où elle allait, ils balayaient devant elle pour pas qu'elle mette des choses mauvaises en bouche. Et cette image-là, enfin, elle veut dire beaucoup de choses, et voilà.
En prison. Oui. Quand même. Après, pour la petite anecdote drôle, Sarah, elle a du mal à comprendre ce que c'était qu'une prison parce qu'à l'époque, quand on était à Madagascar et qu'on l'emmenait vraiment rarement avec nous en prison, c'était à Pâques, à Noël, quand on faisait une fête en fait et qu'on n'avait pas de garde pour Sarah et que ça se mettait bien. Et en fait, quand elle était plus jeune, on lui disait donc si t'es pas sage, t'iras pas en prison. Donc, elle a mis du temps à comprendre que la prison, c'était pas un lieu de fête, mais plutôt une sanction.
Et, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de... Enfin, vous appartenez à la communauté donc, des franciscains, de l'ordre franciscain. Enfin, j'imagine que c'est un lieu voilà, de ressources hein, qui vous porte. Comment votre foi vous porte-t-elle dans cette vie qui a été un peu bousculée voilà, par le handicap?
Moi, comme dit, j'étais tombé dedans petit, puisque mes parents sont franciscains eux-mêmes du tiers-ordre. Et c'est vrai que quand on est revenu en France en 2015, on avait besoin de se rattacher à quelque chose. Et en créant Grandir Dignement, quelques années auparavant, on y avait mis des valeurs franciscaines de simplicité et des valeurs salésiennes pour tout ce qui est pédagogique, donc de Don Bosco. Et en fait, bon, c'est un peu près venu naturellement en revenant en France en 2015 de vouloir vraiment s'inscrire dans cette simplicité aussi dans notre vie privée. C'était déjà un peu le cas, mais voilà, c'était aussi une manière de l'ancrer et dans quelque chose de spirituel. Et en fait, ce qui est très chouette dans le message du pape, par exemple, dans Laudato Si, c'est cette notion d'écologie intégrale. C'est que c'est tout aussi important de prendre soin de la création, mais de toute la création, c'est-à-dire prendre soin aussi de l'homme, et, avec un grand H, et donc prendre soin des faibles, des pauvres et des personnes en situation difficile. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui est venu un peu naturellement. Et ça nous encourage toujours à aller vers ce respect de la vie et de l'homme et de la création.
Et en fait, à notre mariage, pareil, on le relie aujourd'hui, mais en fait, dans la procession aux offrandes, on avait créé un livre, en fait, qu'on avait fait avec deux cartons. Et en fait, sur l'une, il y avait l'image de Don Bosco et sur l'autre, Saint-François, en fait. Et à la base, c'était un peu... je caricature, mais mon côté, son côté. Moi, ayant été en plus en lien avec les Salésiens de Don Bosco et David avec les fraternités franciscaines, François d'Assise. Et puis au final, c'est le but du mariage aussi, hein, mais quelque chose qui s'est mis en complémentarité. Et aujourd'hui, c'est deux piliers un petit peu aussi qu'on essaye, qui nous aident en tout cas dans notre vie au quotidien.
Ce que moi j'ai appris d'Hélène et de la foi qu'elle m'a partagée, puisqu'on on a grandi dans deux milieux assez différents. Elle, la banlieue parisienne, moi la campagne mosellane, elle les salésiens, moi les franciscains. Enfin bref, c'était assez différent. Mais c'est un truc que je trouve très beau et dans lequel on s'appuie parfois, c'est fais comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Et en fait... ce que je peux dire sur la ressource qu'on peut avoir dans la foi, c'est ça, c'est quand il y a des périodes difficiles, parce que clairement on n'est pas très assidu à la prière au quotidien, etc. Ça, ce serait un mensonge de le dire, on a du mal de ce côté-là, mais on est quand même attaché à notre foi et on a quand même une vie de foi. Et vraiment, dans les moments où on est dans un grand questionnement, que ce soit par rapport à notre vie privée ou à notre vie professionnelle ou à nos engagements, eh ben, c'est ça, c'est de mettre tout en œuvre pour aller vers ce vers quoi on pense que c'est bon, mais de prier aussi pour que Dieu nous fasse accepter son choix et ce qui adviendra. Oui, voilà.
Et peut-être pour un peu en guise de conclusion, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des couples voilà, qui se posent la question d'adopter un enfant avec un handicap
Donc c'est un très beau chemin, mais on est forcément très subjectif. voilà, de prendre le temps de rencontrer, de discuter avec, avec d'autres parents qui ont pu faire ce choix-là. Et peut-être, alors c'est un peu le côté peut-être éducatif, mais ce serait de se dire que le premier merci, on le doit à nos enfants. Et je dis ça parce que notamment dans le monde chrétien, et je ne remets pas en cause parce que ça part d'une bonne volonté, mais souvent on va nous dire « Ah, c'est beau ce que vous avez fait, quelle chance Sarah elle a eu, quelle chance Laetitia a eu. » Et alors, ce n'est pas lié au handicap, mais j'ai lu le livre « Dis merci, t'as de la chance d'avoir été adoptée ». C'est un livre, je pense, assez ancien, enfin, je ne sais plus, mais et qui dit tout de qu'il faut être vigilant à ne pas les mettre dans une position de dette. Et je dis souvent, nous, on a choisi, on a fait tout le chemin que ses parents feraient, mais l'enfant en face, lui, il doit s'adapter, mais il n'a pas fait le choix de naître avec une différence, ni d'être confié à l'adoption, ni d'être adopté. Donc, voilà, de se dire, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir, et puis quand vous deviendrez parents, de vous dire, voilà, merci à tous ces enfants qui nous font la joie d'être parents, quoi.
Après, notre particularité, la vie a fait qu'on a accueilli deux enfants porteuses de trisomie 21, et on nous a déjà dit une fois que c'était un peu la Rolls du handicap. Ce que je veux dire, c'est que c'est différent, mais c'est pas forcément plus compliqué qu'un autre enfant. C'est-à-dire que, on a la chance d'avoir aussi Johanna qui est ordinaire, entre guillemets.
Bisomique.
Qui est bisomique, oui, exact. Et en fait, on se rend compte que pour certaines choses, c'est plus compliqué d'être bisomique que d'être trisomique. C'est-à-dire que Sarah, on a fait 12 heures de taxi-brousse en plein cagnard à Madagascar et que ça lui posait pas de problème. Johanna, on fait une heure d'autoroute avec la clim. Quand est-ce qu'on est arrivé? C'est des petites choses du quotidien comme ça qui font que, dans certains cas, c'est plus simple que Sarah est plus facile pour certaines choses. Pour d'autres, c'est plus compliqué, mais c'est juste différent. C'est pas forcément beaucoup plus difficile.
Et peut-être la petite ressource, c'est aussi la belle œuvre de Emmanuel Adoption, parler à Alain Grin et les départements. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en attente d'adoption. Alors, c'est parfois des enfants à incertitude de développement, qui ont des handicaps variés ou des enfants plus grands. Mais je crois qu'en France, on a aussi la chance d'être dans un pays qui est en mesure d'accompagner ces familles-là. Enfin, nous, on s'est toujours senti bien accompagnés par les équipes de travailleurs sociaux qu'on a eues sur toute cette réflexion sur l'adoption d'enfants en particularité.
Ouais. Donc, accompagné, après avoir discerné, c'est un chemin en tout cas qui dilate le cœur à vous entendre. Merci infiniment pour votre témoignage.
Avec joie.
Et j'espère que il rejoindra des lecteurs qui se posent la question ou qui sont sensibles à ces sujets. Et on les invite aussi à lire d'autres témoignages dans le prochain Ombre et Lumière consacré à l'adoption. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une Rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombres et Lumières et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez approfondir ce thème en vous procurant le numéro de la revue en allant sur ombreseslumieres.fr. À bientôt.